Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast intitulé Crypto Cash Cast. Je suis Gaëtan et je vais évoquer avec vous le monde des crypto-monnaies. Alors pour commencer, je vous informe que je ne suis en rien un professionnel de la finance et qu'il ne s'agit dans ce podcast que de la retransmission de mes découvertes et des compréhensions sur ce thème. J'aurais pu appeler ce podcast les cryptos pour les nuls que je suis. En fait, je découvre au fur et à mesure et donc j'ai décidé de vous faire partager mes découvertes et mes compréhensions. Avant de commencer, dans ces podcasts, on va parler d'argent, notion qui peut déranger ou choquer certains et certaines d'entre vous. Donc si ce n'est pas un domaine sur lequel vous vous sentez à l'aise, en termes de moralité, en termes de fiscalité, en termes de choses comme ça, je peux le comprendre, donc je vous invite à pas écouter. Il faut savoir également que la crypto-monnaie ne fait l'objet d'aucune régulation. C'est un peu le Far West, et donc ça peut aussi parfois un peu déranger. Voilà. Une dernière chose avant de commencer, si vous vous aventurez dans l'univers de la crypto-monnaie, n'utilisez que de l'argent que vous pouvez perdre, que vous êtes prêt à perdre, et qui ne mettra pas en danger ni votre situation financière, ni celle de vos proches. C'est hyper, hyper important. Si vous voulez commencer, mettez 10, 15, 20, 30 euros, 100 euros maxi, mais quelque chose que vous pouvez perdre. Pas de l'argent que vous devez utiliser pour manger, pour payer votre loyer, pour payer vos factures. C'est hyper, hyper important. Alors, à date de cet enregistrement, il existe aujourd'hui 1169 crypto-monnaies qui font l'objet d'achats et de ventes. 1169. Alors bien évidemment, je ne vais pas lister toutes ces cryptos, qu'on appelle également altcoins, mais je vais axer ce podcast autour de tout cet univers. Alors, où les acheter et les vendre? Comment les acheter et les vendre? Comment les conserver? Comment suivre leur cours et leur actualité? Comment connaître les futures créations d'altcoins et en acheter en avance? Parce que oui, ces 1169 ne sont pas limités, il y en a qui arrivent encore tous les jours. Et quels outils poursuivent tout cela? Également, on abordera les stratégies d'achat et de vente et on pourra même participer à des programmes de trade automatique, mais tout ça à travers plusieurs numéros. Je ne vais pas vous faire tout ça dans le premier, sinon ça va être un peu très très beaucoup long. Un peu, ça va être très long quoi. Bref. Donc vous voyez, il y a beaucoup de matière à dire. Mais pour ce premier numéro, je vais aborder la crypto la plus connue, à savoir le Bitcoin. Alors, le Bitcoin, c'est une crypto-monnaie qui a été inventée par Satoshi Nakamoto. Alors, c'est un pseudo, en fait, on ne sait pas qui c'est réellement. Et en fait, qui a annoncé son invention en 2008 et qui a publié le logiciel open source en 2009. En fait, ce Bitcoin a été lancé au lendemain de la crise des subprimes, avec toutes les conséquences financières au niveau mondial, toutes les répercussions qu'il y a eu par rapport à ce monde justement de la finance et de l'économie régulée, contrôlée, etc. Donc l'idée, c'est de partir sur une monnaie virtuelle qui est totalement décentralisée et qui est ouverte à tous, sans qu'aucun gouvernement ni aucune banque puisse intervenir dessus. Alors, cette monnaie virtuelle est basée sur ce qu'on appelle la blockchain. Je ne vais pas rentrer dans le détail, je pense qu'il y a pas mal de sites et de podcasts qui détaillent beaucoup mieux ce que c'est que la blockchain au niveau technique, informatique. Mais si on peut résumer, la blockchain, c'est un peu une sorte de registre dans lequel vont être enregistrés justement toutes les transactions et tous les mouvements de ce Bitcoin. Et ce registre, en fait, est partagé sur l'ensemble des ordinateurs décentralisés en peer-to-peer. En gros, personne ne détient uniquement ce registre et personne ne peut modifier ce registre de manière unilatérale. C'est un système qui permet d'être sûr, de sécuriser en fait tout ce qui est écrit dedans. Donc en fait, le but recherché de cette monnaie par rapport au fait qu'elle n'ait pas de régulation et qu'il n'y ait aucun interventionnisme possible, que ce soit d'un État ou d'un groupe financier, c'est pour éviter justement toutes ces fluctuations qui sont, je dirais, artificielles. Dévalorisation, le principe de la planche à billets où je vais rééditer de l'argent et puis créer de l'inflation, de la déflation, etc. etc., etc. Je ne vais pas rentrer non plus, je vous dis, je ne suis pas un financier, donc on ne va pas rentrer dans le détail. Mais en fait, l'idée, c'est ça. C'est d'avoir un Bitcoin qui soit totalement détaché de... qu'il ait sa propre histoire, en fait. Alors, le problème, c'est que le Bitcoin n'est adossé à aucune valeur ou aucun actif. Si vous prenez la monnaie réelle, si je prends l'euro, lorsque la Banque européenne émet un euro, eh bien, il y a un euro de dette en face. C'est un jeu à somme nulle. Là, le Bitcoin, en fait, il ne représente rien au départ. Alors, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, le Bitcoin vaille de l'argent, des dollars ou des euros? C'est tout simplement le fait que ça joue avec l'offre et la demande. Et quand on va en acheter, si vous avez plus de personnes qui veulent acheter du Bitcoin que ceux qui en vendent, ça fait monter le prix. Et puis inversement, pour quand ça fait descendre le prix. Alors le cours du Bitcoin. Donc à sa création, un Bitcoin, c'était $1. C'est simple. Je me suis amusé à prendre plusieurs dates au hasard. Donc j'ai pris en 2013, j'ai pris le 8 juillet 2013. Le Bitcoin valait $77. Le 8 juillet 2016, donc 3 ans plus tard, le Bitcoin valait $650. C'est-à-dire que par rapport au... Alors sa création, il a fait 650 fois plus, bien évidemment. Et par rapport aux 3 ans précédents, il avait fait déjà x8,5. Le 8 juillet 2017, soit un an après, il était passé de $650 à $2521, soit quasiment x4, soit x33 par rapport aux 4 ans précédents, et puis x2521 par rapport à sa création. Et aujourd'hui, on est aux alentours, alors selon le moment où vous allez écouter et puis le moment où je vais le publier, on va dire qu'on est aux alentours de $5500. Donc le 8 juillet 2017, 2521, aujourd'hui donc nous sommes mi-octobre, il est à $5500. Donc vous voyez que c'est une augmentation assez forte, qui a vraiment de la demande en fait par rapport à ça. Donc pourquoi est-ce que le Bitcoin a augmenté aussi fort, notamment depuis le début de l'année ou ces derniers temps, on va dire, une sorte d'explosion? Principalement, on va dire, parce que ça devient connu, ça devient médiatique et de plus en plus de personnes s'y intéressent. La preuve, moi-même, puisque j'ai créé ce podcast par rapport à ça. Plus sérieusement, j'avais commencé à regarder un peu ça il y a quelques années, mais c'était vraiment très technique, très geek, et puis c'était sans plus. Là, depuis quelques temps, depuis que je m'y intéresse, en fait, je me rends compte qu'il y a des outils beaucoup plus simples et que c'est en train de se démocratiser. Alors, il existe un site qui s'appelle CoinMarketCap, excusez-moi pour mon anglais, .com. Donc je mettrai le lien dans les notes de cet épisode. Et en fait, ce site reprend la capitalisation de l'ensemble des altcoins, des monnaies, des crypto-monnaies. Donc à date, ça a changé déjà. Tout à l'heure, je vous disais qu'il y avait 1169 crypto-monnaies, maintenant il y en a 1170. Donc il y a 1170 crypto-monnaies qui s'échangent, donc qui s'achètent et qui se vendent, sur 5812 marchés, places de marché. Donc il n'y a pas une seule place de marché comme la bourse. Bon, si je prends la bourse à Paris, vous n'avez qu'une seule place de marché, et c'est là-dessus que vous allez échanger vos actions. Là, les crypto-monnaies peuvent s'échanger sur plusieurs places de marché différentes. Donc en l'occurrence, 5810. Alors, vous ne pourrez pas toutes les acheter sur tous les marchés. Il y a des marchés spécialisés pour certaines et d'autres. Mais retenez en gros qu'il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de crypto-monnaies, il y a beaucoup de marchés. Ce n'est pas uniquement centralisé sur un seul et unique canal. Au niveau de cette valorisation de tous ces marchés, ça représente aujourd'hui 169 milliards de dollars. Donc, je vous dis bien, 169 milliards de dollars. C'est ce que représente la valorisation de ces marchés, de toutes ces crypto-monnaies. Donc ça représente quand même quelque chose d'assez conséquent. Si je prends uniquement le Bitcoin, puisque cet épisode est porté sur le Bitcoin, en fait le Bitcoin représente à lui seul 92 milliards, soit 54% de l'ensemble des places de marché. 54%, 92 milliards de Bitcoin. Et en circulation, il y a aujourd'hui 16 624 587 Bitcoin, pour être précis. Donc 16,5 millions, on va dire, de Bitcoin. Il faut savoir que cette capitalisation du Bitcoin, elle a dépassé récemment celle de la banque Goldman Sachs, celle de Morgan Stanley, qui est également une grosse banque, et celle aussi de Netflix. Donc ça continue à augmenter, et ça commence à peser très lourd par rapport à l'ensemble de la finance, même si ce Bitcoin est quelque chose, on va dire, hors système financier. Mais si on le compare par rapport au monde financier, on se rend compte que ça commence à peser énormément, puisque en fait la référence du Bitcoin reste le dollar. Donc même si c'est une monnaie, une crypto-monnaie, une monnaie virtuelle, elle reste quand même en référence, on se réfère à de l'argent réel. Alors, on peut se dire aujourd'hui, ok Gaëtan, c'est bien gentil, tu me dis que ça valait 1$ à sa création en 2008-2009, très bien, bon, j'en ai pas acheté. Tu me dis qu'en 2013, ça valait $77 à peu près, très bien, j'en ai pas acheté. Tu me dis qu'en 2016, ça valait déjà $650, j'en ai pas acheté. Qu'en juillet 2017, ça valait 2500 dollars, j'en ai pas acheté. Aujourd'hui, ça vaut $5500. c'est bon, c'est trop tard, j'arrive trop tard, elle est bien gentille ton émission, ton podcast, mais c'est un peu trop tard pour s'y mettre, j'ai raté le train, donc tant pis pour moi. Alors, par rapport à ça, moi je vais vous donner mon avis par rapport à ce que j'ai compris, par rapport à ce que j'ai lu. Alors attention, ce n'est que mon avis, ce n'est absolument pas une donnée scientifique ou je n'ai pas le don de lire dans les boules de cristal. Alors là, si ça augmente récemment, notamment si vous suivez un petit peu les cours, puis même la presse généraliste en a un petit peu parlé, c'est que sur le mois d'octobre, ça a encore explosé. Ça a pris des proportions, des augmentations assez fortes. Parce qu'en fait, il y a un truc qui... Enfin, je vous parlais un petit peu la notion de hard fork. La notion de hard fork, c'est quoi ? Le Bitcoin, donc la blockchain, il y a un système, un programme informatique qui fait le fonctionnement, enfin, je ne vais pas entrer dans les détails, mais en gros, votre système informatique, en fait, prend un certain temps pour faire une opération avec un Bitcoin. En gros, écrire sur le registre, vérifier le registre, cette fameuse blockchain, et valider l'information. L'information, c'est par exemple, j'envoie un Bitcoin de A à B, et bien le registre va vérifier que le Bitcoin de A arrive bien chez B, donc écrire sur le registre, vérifier par plusieurs systèmes que le A avait bien un Bitcoin et que B a bien reçu ce Bitcoin, etc., etc., etc. Donc tout ça fait que ça prend un certain temps, et que vu le nombre de Bitcoins aujourd'hui en circulation, le système devient assez lourd, ou du moins c'est pas le plus efficace. Et donc il y a des gens qui participent à cette blockchain qui voudraient modifier cette blockchain de manière à ce que ça aille plus vite, plus de transactions, et que le système informatique soit différent. Là aussi, je simplifie, mais c'est en gros ce que j'ai retenu. Donc pour faire ça, en fait, déjà le 1er août, il y a eu un hard fork. Un hard fork, c'est quoi ? C'est donc dire, ben voilà, le système actuel, je le chinte, je crée un système parallèle, on va dire, avec une formule informatique beaucoup plus rapide, beaucoup plus forte. La conséquence de ça, c'est quoi ? La conséquence de ça, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, le Bitcoin tel qu'il existe aujourd'hui, ben, n'intéresse plus personne. Et c'est ce nouveau Bitcoin, Bitcoin Bis, par exemple, qui serait plus rapide, et donc la valorisation, du moins le comment dirais-je, l'intérêt porterait sur ce nouveau Bitcoin. Donc le 1er août dernier, il y a déjà eu un premier hard fork qui s'est déroulé. Donc à ce moment-là, il y avait beaucoup d'inquiétudes. Donc le cours s'était réduit, tout le monde commençait à se dire ça y est, c'est la fin du Bitcoin. Donc il faut commencer à sortir avant que ça se casse la figure. Ce qui s'est passé, c'est que donc a été créé le Bitcoin Cash. Donc si vous allez sur CoinMarket, pardon, le site des cours, vous vous rendez compte qu'il est quatrième en termes de volume de marché, qu'aujourd'hui il représente 5 milliards de dollars. Et surtout, c'est que les gens qui avaient un Bitcoin se sont retrouvés en fait avec un Bitcoin, pas acheté, offert, mais en gros, ceux qui avaient le Bitcoin se sont retrouvés avec l'équivalent en Bitcoin Cash. Donc tout simplement. Et le Bitcoin ne s'est finalement pas écroulé. Le Bitcoin Cash donc vaut aujourd'hui 300 dollars. Donc en gros, votre valeur de Bitcoin, vous avez encore pris une plus-value supplémentaire par rapport à ça. Donc non seulement le Bitcoin ne s'est pas effondré, mais en plus cette nouvelle monnaie, le Bitcoin Cash, qui s'est créée en parallèle, ben, vous a été entre guillemets offerte, mais elle vaut également de l'argent aujourd'hui. Donc on se retrouve en gros avec deux systèmes de Bitcoin. Deux systèmes de Bitcoin avec deux crypto-monnaies, dont un c'est le Bitcoin et l'autre qui a un nom de Bitcoin mais qui pourrait s'appeler n'importe comment, donc bref, ne pensez pas qu'il y a deux systèmes de Bitcoin. Mais en gros, c'est ça, c'est-à-dire qu'il y a une nouvelle crypto-monnaie qui s'est créée, qui s'est mise en parallèle au Bitcoin, voulant utiliser le système et voulant surtout le remplacer. Sauf qu'aujourd'hui, ça ne le remplace pas, parce que le Bitcoin est toujours aussi fort, donc il y a une monnaie supplémentaire, et donc les gens qui avaient des Bitcoins se retrouvent avec des Bitcoin Cash en plus. C'est bon jusque-là ? J'espère que c'est pas trop... Pas trop savonné. Donc ça, c'était le 1er août dernier. Donc suite à ça, vu que ça s'est bien passé, le Bitcoin est reparti de plus belle en termes de cours. Sauf que le 25 octobre prochain, donc on est dans une bonne dizaine de jours, et également court en novembre, il y a deux autres hard forks qui pourraient arriver. Je dis qu'ils pourraient parce qu'en fait, il faut qu'il y ait une majorité de ces programmeurs geeks qui valident ou pas le fait de se faire ce hard fork. Mais si ça arrive... Eh bien, les gens se sont rendus compte que, un, ça ne posait pas de problème sur le Bitcoin, et qu'en plus, ceux qui avaient un Bitcoin pouvaient probablement bénéficier de cette nouvelle monnaie qui allait être créée. Donc, ça vous donne un gain, un intérêt supplémentaire au Bitcoin, et c'est pour ça qu'actuellement, c'est en train de monter très très fort. Parce qu'en fait, les gens espèrent faire une sorte de, de plus-value, une sorte de jackpot, donc de doubler en gros le... Enfin, pas doubler, mais enfin bref, ils espèrent toucher beaucoup plus qu'en ayant uniquement les bitcoins tels qu'ils sont aujourd'hui. Voilà. Donc ça, c'est pourquoi est-ce qu'il faut pas, est-ce qu'il est encore trop tard pour s'y intéresser. À très court terme, non, il n'est pas trop tard parce que ça va encore augmenter. Et dès que vous entendrez parler de hard fork dans les actualités de Bitcoin, dites-vous que ça va faire augmenter le Bitcoin à chaque fois avant un peu ce hard fork, on va dire en gros un mois avant, par rapport à cet intérêt. Sauf le jour où, eh ben ce hard fork fonctionnera et que le remplaçant du Bitcoin sera plus puissant et plus fort. Mais à ce moment-là, avant que ça perde de sa valeur, on le verra arriver. Bon, ça c'est la première chose. Deuxième chose aussi, c'est qu'en fait le Bitcoin, tel qu'il est programmé, donc tel qu'il est conçu, il n'est prévu que de n'avoir que 21 millions d'exemplaires uniquement. C'est-à-dire que il ne pourra pas y avoir plus de 21 millions de Bitcoin existants sur le réseau peer-to-peer, sur cette blockchain. Aujourd'hui, on est déjà à 16,5. Ça veut dire qu'il en reste encore 4,5, on va dire. Oui, c'est ça, 4,5. C'est bien, j'arrive à compter encore. Il reste encore 4,5. Et ce qui veut se dire aussi, c'est que beaucoup de gens veulent du Bitcoin, puisque le cours augmente, ça s'entend qu'il y a plus de demandes que d'offres, et qu'à un moment donné, il n'y en aura plus de disponibles. Ça va faire un peu comme l'or. L'or aujourd'hui, enfin l'or quand c'est la ruée vers l'or, la fameuse ruée vers l'or, l'or avait une sorte de valeur qui augmentait, et plus, enfin moins on trouvait d'or, plus ça valait cher. Et vous avez un peu le même principe, pour moi, attention, pour moi c'est un peu le même principe pour le Bitcoin. Moins il va y en avoir de nouveau, plus ça va valoir cher. Et lorsqu'on sera arrivé aux 21 millions d'exemplaires, eh ben c'est comme les lingots d'or qui sont aujourd'hui dans les banques. Il y aura un cours, mais ce sera une sorte de valeur refuge. L'or, parce que l'or aujourd'hui en tant que tel ne vaut rien. Vous prenez un lingot d'or, si vous ne le revendez pas contre de l'euro, contre des dollars, vous ne pouvez pas faire grand-chose avec. Vous ne pouvez pas construire une maison avec. Il n'a pas une capacité technique, physique ou particulière qui donne cette valeur. C'est juste un référent d'échange monétaire. Pour moi, le Bitcoin, c'est un peu la même chose. C'est devient la valeur refuge de la crypto-monnaie, comme est l'or, enfin comme pour nous est l'or pour la partie finance réelle, euro et dollars. Voilà. Donc tout, en gros, tout ce qui est rare est cher. Donc pour moi, la crypto va continuer à monter et pour longtemps. Alors, il y a beaucoup de prophètes, entre guillemets, qui annoncent des montants et des délais. Dans 4 mois, il y en a qui dit dans 4 mois, ça vaudra 27 000 $. Un autre qui dit dans 6 mois, ça vaudra 10 000 $, le Bitcoin. D'autres qui disent, c'est une bulle, ça va exploser, c'est bientôt la fin. Bien malin celui qui saura ce qui va se passer. Mais si on se base par rapport à ce que j'ai expliqué juste avant, si on est un peu logique, on voit qu'il n'y a pas de raison que ça s'arrête comme ça du jour au lendemain. Alors, effectivement, après, on peut dire aussi qu'il y a des variations de cours, c'est-à-dire que ça augmente, puis des fois ça baisse, ça y est, ça baisse, ça a perdu 20, 30%, c'est la fin. Alors ça s'est arrivé début septembre par exemple, ça y est, c'est la fin du Bitcoin, la bulle s'effondre, non pas du tout, il s'est passé une petite information, est-ce que je vous en parle? Oui allez, je vous en parle. En fait, c'est les Chinois qui ont annoncé qu'ils allaient interdire les ICO en Chine. Qu'est-ce qu'une ICO? Alors ça fera l'objet d'un épisode particulier. En fait, les ICO, c'est la création de nouvelles monnaies. C'est une pas une introduction en bourse, mais c'est l'équivalent d'une introduction en bourse. En fait, c'est un projet basé sur une blockchain qui va se faire financer en créant une crypto-monnaie. Et aujourd'hui, c'est tous les jours, vous en avez 3, 4, 5 qui apparaissent. Et donc, il n'y a aucune régulation. Et les Chinois ont décidé de réguler tout ça en disant, on va réguler, on va interdire. Et paf, le Bitcoin commence à s'écrouler. Les gens ont dit, ça y est, c'est la fin du monde. Donc le Bitcoin a perdu 20-30% en quelques jours. Puis après, c'est reparti de plus belle. Donc bien évidemment, vous avez toujours des variations de cours, comme beaucoup de cours, d'actions, des choses comme ça, il y a toujours des variations. Mais en gros, quand vous prenez la courbe depuis sa création à aujourd'hui, ça a pris énormément, 5 fois 5500. Alors aussi, les dernières choses concernant ce Bitcoin, en termes de est-ce qu'il est trop tard pour s'y intéresser, vous avez toutes les grandes banques ou les grands financiers qui crient à la bulle ou qui crient à la fraude. C'est n'importe quoi, il ne faut pas aller dans le Bitcoin, c'est dangereux, c'est pas ça. Bien évidemment, ils donnent leur point de vue, ils défendent aussi un peu leur business, on va dire. Ils défendent leur steak. Par exemple, vous avez un des dirigeants de JP Morgan, vous dites comme vous voulez, qui critiquait le Bitcoin et qui qualifiait même les acheteurs de Bitcoin de gens stupides. Ok, c'est son point de vue en disant qu'ils ne comprennent rien, Bitcoin c'est une fraude, c'est une bulle, c'est du n'importe quoi. Très bien. Mais cette banque, JP Morgan, lorsque début septembre, la fameuse annonce chinoise d'interdire les ICO, donc quand le Bitcoin a dégringolé, cette banque, dont le dirigeant disait que les acheteurs étaient stupides, ils en ont acheté pour 20 000 bitcoins à la baisse, lors de la baisse. Je pense qu'ils ont vendu depuis. Mais pour une banque, une grande banque comme ça, qui dit qu'il ne faut surtout pas y aller, c'est dangereux, c'est de la fraude, etc., ils ne sont pas privés pour y aller. Donc, si eux y vont également, je pense qu'il y a quand même quelque chose derrière en se disant c'est pas trop tard pour y aller. Bon, voilà. Voilà un petit peu sur la réponse à la question est-ce qu'il est trop tard pour y aller ? Moi, je vous dis, je me dis qu'il n'est pas trop tard et qu'on peut continuer à acheter des bitcoins ou à s'y intéresser. Ça va augmenter. Une fois qu'on a des bitcoins, à quoi ça sert les bitcoins ? Ah oui, le bitcoin, c'est bien gentil, ça augmente, j'en ai plein, j'arrive à en avoir plein, c'est fantastique. À moins de les revendre et puis d'avoir l'équivalent en dollars ou en euros pour m'enrichir ou du moins pour spéculer en fait là-dessus. Est-ce que ça a une autre fonction, le bitcoin ? Ben, aujourd'hui, dans le bitcoin, ça a plusieurs possibilités. La première possibilité, c'est d'acheter d'autres crypto-monnaies. C'est-à-dire que sur ces 1170 crypto-monnaies, la plupart s'échangent avec principalement du bitcoin. En fait, votre bitcoin, c'est votre référent, on va dire, d'argent pour les autres crypto-monnaies. Alors, toutes les crypto-monnaies ont toujours un cours qui est indiqué en dollars, qui peut s'indiquer en euros, mais qui peut s'indiquer également en bitcoin. Donc en fait, le bitcoin, c'est vraiment le référent. Je reviens sur mon étalon or, en fait, par rapport au monde des crypto-monnaies. Deuxième chose, alors c'est pas dans l'ordre prioritaire, hein. Deuxième chose, bitcoin permet également aujourd'hui d'acheter dans la vie réelle. Ça peut être principalement des e-commerce, ça peut être également dans des magasins physiques. Et aujourd'hui, vous avez un site, alors qui référence l'ensemble des commerces dans lesquels vous pouvez dépenser vos bitcoins pour faire vos achats. Alors je ne vais pas vous lisser, alors je vais mettre également dans les notes, comme ça vous aurez le lien. Mais si je prends un exemple, par exemple, tout, e-commerce généraliste, showroomprivé.com, il prend le bitcoin. Si vous allez dans le matériel informatique, alors vous avez quand même pas mal de choses qui tournent autour du bitcoin également. Mais vous avez d'autres choses, vous avez, je ne sais pas moi, Xiaomi France, xiaomifrance.com, il prend du bitcoin. Si vous allez sur à Colombe, c'est pcduo.fr, c'est un magasin d'informatique, il prend du bitcoin. Après, vous avez des imprimantes 3D, vous avez du modélisme, des métaux précieux, des produits alimentaires, tiens. Vous avez des vins spiritueux, vous avez sport et loisirs, vous avez alimentation animale, bijoux, décoration, vêtements, chaussures, accessoires, etc., etc. Jeux vidéo, art, artisanat, fleurs, bref. Vous irez dessus, et c'est assez étonnant de se voir qu'en fait, on peut tout acheter, quasiment tout, avec des bitcoins. Pas, quand je dis tout, on peut trouver en fait pour chaque... j'ai même des pizzas, là. On peut trouver en fait pour chaque catégorie, en fait, on pourra toujours trouver une solution pour acheter en bitcoin, dans ce type de catégorie. Après, c'est pas partout, c'est peut-être pas les meilleurs tarifs, je ne sais pas. Mais voilà. Donc ça, vous pouvez en fait déjà utiliser vos bitcoins pour faire vos achats. Honnêtement, je n'y vois aucun intérêt, puisque le bitcoin, vous allez acheter, alors, on va dire, vous achetez un bitcoin, il vaut 100 euros. Ok ? Vous allez faire un achat qui vaut 100 euros. Et donc, vous allez payer en bitcoin. Vous allez payer avec votre bitcoin. Donc, en fait, ça vous aura acheté en bitcoin ou en euros. Ça revient à la même chose. Sauf si votre bitcoin a déjà augmenté un petit peu. On va dire qu'il vaut maintenant 150 euros. Donc, en fait, avec vos 100 euros de départ, vous allez pouvoir acheter quelque chose qui vaut 150 euros. Mais comme ça augmente toujours, enfin, je vois pas trop l'intérêt. Enfin, chacun y voit, en fait, chacun y voit l'intérêt. Mais pour moi, le bitcoin aujourd'hui, comme il va commencer à se raréfier, encore le temps, mais l'idée, moi, c'est vraiment d'accumuler, enfin, de garder ces bitcoins et de les, petit à petit les d'essayer d'en récupérer un petit peu partout pour se créer une sorte de portefeuille au bitcoin, tout simplement. Bon, voilà. Et après, donc, à quoi sert le bitcoin ? Dernière chose aujourd'hui, bitcoin, il sert également à spéculer. Donc là, on est clairement dans la finance pure et dure, dans du trading, sur les hausses et les baisses. Donc là, c'est ce qui sert aujourd'hui. C'est ce qui fait varier le cours énormément. Voilà à quoi sert le bitcoin principalement. J'ai peut-être oublié d'autres choses. Dans ces cas-là, vous n'hésitez pas à me le dire. Je continue. Comment obtenir des bitcoins ? Alors ça, c'est... Ok, j'ai compris quel était le bitcoin, j'ai compris que ça valait cher, j'ai compris que je pouvais faire ce que je pouvais en faire avec. Mais maintenant, si je veux des bitcoins, comment je peux les obtenir ? Bah, il y a trois manières principales pour les obtenir. Première manière... Alors, toujours dans le désordre. Première manière, c'est le... Attends, il y a quatre manières, pardon. Hop, j'ai dit une bêtise, quatre manières. Première manière, c'est le principe du minage. Donc, le minage, c'est quoi ? C'est en fait, vous mettez à disposition votre ordinateur avec sa carte graphique, principalement, pour participer à la blockchain. Donc, en gros, cette blockchain, cette fameuse blockchain, ce registre dans lequel on écrit les transactions, sur lequel on vérifie ces transactions, sur lequel on crée également ces futurs bitcoins, en trouvant en fait des solutions à des équations, pour faire simple, je simplifie un maximum. Donc, si vous pouvez participer, vous mettez à disposition votre ordinateur, la puissance de votre ordinateur, pour participer à cette blockchain. Sauf qu'aujourd'hui, plus vous avancez vers ces 21 millions d'unités, plus la partie, on va dire, création de Bitcoin est hyper, hyper compliquée et ça demande beaucoup, beaucoup, beaucoup de puissance informatique. Aujourd'hui, il y a des véritables fermes de minage qui se sont créées, donc c'est vraiment des professionnels. Quand j'ai des fermes de minage, ils ont l'équivalent de 5 000 ou 10 000 ou voire 20 000 ordinateurs, cartes graphiques qui sont montés en chaîne pour faire uniquement du minage de Bitcoin. Je ne vous parle pas de la facture électrique. Donc, pour faire ça, aujourd'hui, clairement, vous oubliez. Vous oubliez ou alors vous allez un petit peu chercher ce qui existe, mais moi, j'ai regardé vite fait et ce domaine-là ne m'intéresse pas, donc je n'irai pas plus loin là-dedans. Vous pouvez très bien chercher si vous voulez d'autres informations, je pense que vous trouverez ça sans problème. Mais sachez que donc, pour obtenir du Bitcoin, vous pouvez en créer chez vous en participant à la blockchain. Voilà, simplement. Mais c'est compliqué. Enfin, c'est compliqué. Là, par contre, c'est un peu tard. Voilà, ça, ce n'est que mon avis. Deuxième chose, pour obtenir des bitcoins, ben, se faire payer en bitcoins. Vous vendez quelque chose, vous rendez un service, et puis plutôt que vous faire payer en euros, vous faites payer en bitcoin. Donc, vous avez des bitcoins qui commencent à arriver sur votre portefeuille bitcoin. Donc, voilà comment vous pouvez en obtenir. Ensuite, vous avez également des sites, alors, je crois que c'est dit Faucet, F-A-U-C-E-T. Ces sites de faucettes, c'est quoi ? C'est qu'en fait, ça va vous donner des bitcoins contre votre lecture de pub. En gros, ça ressemble, alors pour ceux qui se souviennent, dans les années 2000, il y avait des sites avec des bandeaux publicitaires sur lesquels il fallait cliquer dessus tous les 10 minutes, 5 minutes, 30 secondes, et puis ça vous reversait des quelques centimes. Là, c'est le même principe. Donc, c'est des sites qui tournent, et toutes les heures, il faut cliquer à un endroit, et puis ça va vous reverser un pouillème de bitcoins. Mais c'est gratuit, et puis avec ça, vous pouvez commencer à avoir un peu de cette monnaie. Bon, sinon, la manière la plus simple et la plus évidente d'avoir des bitcoins, c'est tout simplement d'en acheter contre de la monnaie réelle, donc contre de l'euro, par exemple, ou contre des dollars. Ça, c'est la manière la plus simple et la plus évidente. En fait, vous voulez vous lancer dans le bitcoin, bah, vous allez acheter des bitcoins, tout simplement, puis allons-y gaiement. Vous pourrez toujours vous faire payer en bitcoin pour certaines choses, éventuellement, si vous y arrivez. Vous pouvez très bien aller sur un site de Faucet et puis cliquer toutes les heures sur la pub, ça vous fera toujours des petits centimes de centimes de centimes de centimes de bitcoin en plus. On ne sait jamais, ces petits centimes, peut-être qu'un jour, quand le bitcoin vaudra, je dis n'importe quoi, un milliard de dollars, ben ce centime, il vaudra cher quand même. Hein. On ne sait jamais, sait-on jamais. Comment acheter des bitcoins. Alors, un conseil par rapport à ça. Vous allez me dire, oui, alors déjà, c'est bien gentil, Gaëtan. Les bitcoins, aujourd'hui, vaut 5 500 $, donc 4 800 €, quelque chose comme ça. J'ai pas 4 800 € à mettre pour acheter un bitcoin. Le bitcoin, en fait, vous pouvez l'acheter en, on va dire, en centimes de bitcoins. c'est pas des centimes, ça s'appelle des satoshi, je reviendrai plus tard. Vous n'êtes pas obligé d'acheter en fait un bitcoin complet, vous pouvez acheter une partie de bitcoin. Donc si vous voulez mettre 100 euros par exemple, ben, vous aurez l'équivalent de, en bitcoins de, donc de 0,00, je sais plus combien, bitcoins. Donc là-dessus, ça passe pas de problème. Voilà, donc ça c'est la première chose. Donc vous n'êtes pas obligé d'acheter bitcoins complet, heureusement. Deuxième chose, un conseil que j'avais vu et que je pense qui est très intéressant. Il vaut mieux acheter peu et souvent que l'inverse. Je m'explique. Comme le Bitcoin a des variations de cours qui sont assez impressionnantes, il vaut mieux pas se dire, tiens, je vais acheter 100 euros de Bitcoin d'un coup, et puis ça va monter, et puis ça va monter, et puis là, je vais la revendre derrière. Je dis n'importe quoi, par exemple. Sauf que si ça baisse, vous dites, bah, j'ai mis 100 euros, puis voilà, ça a baissé, puis je suis obligé d'attendre que ça remonte et que ça redépasse pour au moins... avoir, enfin, être en positif. Alors après, si vous voulez juste acheter des bitcoins en disant que ça montera à très long terme, c'est pas un problème. Mais par contre, ce que vous pouvez faire, c'est donc acheter, je sais pas, vous décidez d'acheter pour 100 euros de bitcoins. J'ai n'importe quoi. Il vaut mieux dire, ben voilà, je vais acheter 10 euros la première semaine, 10 euros la deuxième semaine, 10 euros, peut-être, on va dire, on va diviser par sur un mois. Donc, voilà, je vais mettre 100 euros ce mois-ci en bitcoins, et ben je vais faire 25 euros par semaine. Je vais acheter 25 euros de bitcoins tous les lundis, mardi ou mercredi, ce que vous voulez. Ce qui vous permettra de lisser un peu plus les variations de cours. Alors bien sûr, si pendant ce mois complet, le bitcoin ne se fait qu'augmenter, vous pouvez vous dire, bah, si je vais acheter 100 dès le début, eh ben, j'aurais gagné beaucoup plus. Enfin, ça vaudrait beaucoup plus aujourd'hui. Sauf que si vous achetez 25 la première semaine, et en plus, ça se casse la figure la semaine d'après, vous rachetez 25, ça se recasse la figure, vous achetez 25, et la dernière semaine, ça remonte au niveau du départ, mais en fait, vous avez déjà rentabilisé en fait, vos achats. C'est ce que j'ai fait moi, puisque je me suis lancé dans le Bitcoin fin août, lorsque le Bitcoin venait de dépasser un nouveau record et que tout le monde en parlait. Je me suis dit ça et je m'y lance. Et puis quand j'ai acheté le lendemain, ouais, c'était très, ouais, c'est le lendemain, la Chine a annoncé donc l'intention d'interdire l'ICO. Et donc là, le Bitcoin s'est cassé la figure. Donc j'en ai racheté la semaine qui a suivi un petit peu. Et après, j'en ai racheté encore un petit peu la semaine d'après. Et puis finalement, aujourd'hui, ben, je suis largement positif en valorisation de bitcoins. Voilà. Où est-ce que vous pouvez acheter ces fameux bitcoins? Alors moi, ce que je vous conseille, le plus simple pour commencer, c'est ce que j'ai fait, c'est un site qui s'appelle Coinbase. Donc je vous mets le lien également dans la description, c'est coinbase.com. Et alors, pour être totalement transparent avec vous, dans ce lien, il y a un... Comment dire? C'est un lien... mince. D'affiliation, voilà, d'affiliation, qui en fait vous permettra, vous, d'obtenir pour 100 euros, 100 dollars, pardon, c'est pas des euros, pour 100 dollars d'achat en bitcoins, vous aurez 10 dollars de bitcoin en plus, donc 10% en plus. Et moi, je récupère également l'équivalent de 10 dollars de bitcoins également chez moi. Donc, si vous souhaitez passer par Coinbase, par rapport à ce que je vais vous expliquer, si vous voulez passer par le lien, ben je vous en remercie d'avance. Considérez ça, on va dire, comme du financement participatif pour le podcast, mais qui est gratuit pour vous, parce qu'en fait, ça ne vous coûtera rien. Vous faites votre opération tranquillement, et moi, je vais récupérer 10 dollars de bitcoin. Et avec ça, je pourrais faire plein de trucs. Non, mais plus sérieusement, voilà, si vous avez envie de le faire, vous le faites. Si vous n'avez pas envie de le faire, j'ai pas de problème avec ça. Mais je voulais être transparent là-dessus, en disant que ce n'est pas un truc caché. Voilà, donc ce Coinbase, donc une fois que vous avez cliqué sur le lien, ou pas. Donc sur coinbase.com. Le site est en français. Enfin, il est traduit en français. Et il est très facile d'accès. C'est très, très simple. Alors, vous avez votre compte à créer, bien évidemment, votre mail, votre mot de passe. Il vérifie le mail. Et vous envoyez de mémoire la copie de votre carte d'identité en pièce jointe. Et la validation de compte se fait assez rapidement. En quelques heures, c'est fait. Donc, une fois que c'est fait, bah, vous pouvez procéder à l'achat de vos premières crypto-monnaies. Alors, ça peut être du Bitcoin, mais sur ce site également, il y a également l'Ethereum et le Litecoin. En gros, on va dire que c'est les trois monnaies, crypto-monnaies les plus connues, les plus historiques aussi, qui existent. Mais on va rester que sur le Bitcoin, d'accord? Alors, donc, pour acheter ces monnaies, donc ce Bitcoin, vous avez deux possibilités. Soit vous faites un virement de votre compte bancaire, donc un virement SEPA, ou soit vous payez en carte bleue directement comme un achat... comme un achat sur un e-commerce. Alors, vous avez des plafonds. Si vous décidez de vous lancer très fortement dans le Bitcoin, donc en virement, vous pouvez faire... le plafond est de 9 000 euros par semaine. Donc là, déjà, c'est du lourd. Et par contre, en carte bleue, vous êtes plafonné à 500 euros par semaine. C'était plafonné à 300 de mémoire il n'y a pas longtemps, c'est monté à 500 euros. Clairement, moi, je vous invite à utiliser la carte bleue. C'est beaucoup plus facile et plus simple. Et c'est pas, enfin, c'est un paiement sécurisé, comme vous l'avez pour des sites de e-commerce. Au niveau de ces plafonds, apparemment, on peut les augmenter. Donc, le jour où vous avez envie de... Vous voulez mettre beaucoup plus, vous pouvez donc faire valider votre identité. Et les plafonds, donc, à ce moment-là, sont déplafonnables. Je ne l'ai pas fait. Pour l'instant, ce n'est pas le but du tout. Alors, vous achetez donc vos bitcoins avec votre carte bleue, enfin du moins vos centimes de bitcoins, parce que, enfin à moins que vous ayez, vous mettez, ben non, parce qu'en carte bleue c'est 500, donc déjà vous ne pouvez pas mettre les 5500, enfin les 4800 euros, pardon, pour acheter votre premier bitcoin, donc automatiquement vous aurez des centimes de bitcoin. Il faut savoir que le bitcoin se décompose en 8 chiffres après la virgule, et qu'on appelle ça des satoshi, c'est le nom du créateur tout simplement. Voilà, donc vous aurez des satoshi. Donc vous avez également des frais de transaction qui s'élèvent aux alentours de 3,5% lorsque vous faites votre achat. Donc en gros, vous allez acheter pour 100 $ ou 100 €, parce qu'en fait, vous faites également en euros, hein. Vous pouvez payer en euros, bien évidemment. Et bien, ça vous prend, ne seront utilisés pour acheter des bitcoins que 97 € et non pas les 100 €. Donc c'est pour ça que lorsque vous faites... enfin, quoi que c'est un pourcentage, donc j'ai une bêtise. Quand vous faites un achat, c'est un plus gros, mais non, justement, c'est un pourcentage. Voilà, donc vous achetez vos bitcoins et puis c'est débité sur votre carte bancaire et puis moins les frais de transaction, vous avez votre bitcoin qui apparaît sur votre compte de Coinbase. Coinbase, en fait, va conserver vos cryptos, bien évidemment, mais vous pouvez également les rapatrier sur votre propre portefeuille, un wallet. Mais ça, enfin, les wallets, je viendrai un peu plus tard vous expliquer plus tard, pas dans cet épisode, ça sera l'objet d'un autre épisode. Notre crypto cashcast, et je vous explique un petit peu le fonctionnement. Mais en gros, vous pouvez vous dire que votre Coinbase donc, va garder vos bitcoins tranquillement au chaud sur ce site. Si vous vous faites payer en bitcoin par exemple, vous pouvez très bien les faire rapatrier sur Coinbase. Coinbase va devenir votre portefeuille en ligne et dessus vous aurez tous vos bitcoins. Donc on viendra pour cette partie portefeuille, tout ce qui est sécurité, etc. Parce qu'en fait, oui, je peux vous le dire tout de suite, c'est à éviter de garder en fait ces bitcoins sur un site web, parce que je vous rappelle que c'est pas régulé, ça fait l'objet d'aucune législation particulière. Si demain Coinbase décide de partir avec la caisse, il peut très bien. Bon alors, il y en a qui l'ont déjà fait et puis il y a eu des procès, mais il n'y a pas de, comme une banque aujourd'hui, quand vous avez de l'argent sur une banque, l'argent est garanti à hauteur de, je crois, de mémoire, c'est 150 000 euros d'encours. Donc même si la banque fait faillite ou part avec la caisse, vous avez derrière un organisme, je crois que c'est la Banque Centrale ou la Banque de France, qui va garantir en fait les avoirs à hauteur de 150 000 euros. Là, pour Coinbase, il n'y a rien du tout. Donc si vous mettez 100 ou 200 balles, on va dire, c'est pas grave. Comme c'est toujours de l'argent qu'on est prêt à perdre, parce qu'on les perd en Bitcoin ou ailleurs, on dirait on les a perdus. C'est un peu dommage, mais plus sérieusement, si vous commencez à avoir pas mal de bitcoin, enfin, j'ai une bêtise, vous avez un bitcoin, puis d'un coup, le bitcoin, il monte à... Mettez 100, et puis dans 2 semaines, il fait déjà 3000. Laissez pas dessus, quoi. Mais ça, enfin, on en reparlera. Donc pour l'instant, vous prenez pas la tête avec ça, je reviendrai plus tranquillement avec ce truc-là. Donc sachez que Coinbase, c'est quand même un site qui est connu et reconnu, qui est très utilisé, qui est apprécié, donc il n'y a pas de raison que ça parte en cacahuète à partir de... une fois que j'ai fini l'émission. Vous pouvez dormir tranquille. Mais pour commencer à faire mumuse, ça va très bien. Vous êtes content, vous avez vos bitcoins. Maintenant, je veux payer ou acheter avec mes bitcoins. Comment je fais? C'est vrai que dans la monnaie classique, en euros par exemple, ben j'ai un chéquier, je peux faire un virement, je peux faire une carte bleue, ou je peux payer avec de l'argent physique, avec des billets. Le bitcoin n'existe pas ça n'existe pas en monnaie, c'est de la monnaie virtuelle, donc automatiquement, c'est pas physique. Aujourd'hui, il n'y a pas de carte de paiement possible avec... il y a des projets, mais pour l'instant, ça n'existe pas. Donc pour payer avec un bitcoin, ou pour acheter quelque chose avec des bitcoins, en fait, on utilise ce qu'on appelle des clés publiques, qui sont en fait des sortes d'adresses, ce sont des suites de chiffres et de lettres, souvent adossées avec un QR code. Alors, petite parenthèse, Vous verrez, alors si vous vous intéressez un petit peu plus au Bitcoin, vous allez commencer à regarder sur les sites, etc. On vous parle de clés publiques et de clés privées. En gros, la clé privée, c'est ce qui va identifier votre portefeuille. Cette clé privée, vous ne devez jamais la divulguer, vous ne l'envoyez à personne. Mais c'est cette clé privée qui va générer des clés publiques. En fait, la clé publique est, avec des algorithmes, rattachée à la clé privée. Pour être sûr que votre clé publique arrive bien, quand vous donnez une clé, que ça arrive bien sur votre portefeuille à vous, pas sur le portefeuille du voisin. Voilà, pour faire simple. C'est pas tellement pour les erreurs, c'est plus pour le piratage ou autre. Bon, bref. Donc, clé privée, si un jour vous avez une clé privée, vous en parlez à personne, c'est pour vous, la communiquer à personne. Par contre, la clé publique, ça, vous pouvez la communiquer à qui veut vous envoyer des bitcoins. Donc, en gros, vous allez sur un site qui va vous vendre quelque chose, vous allez devoir payer, vous dites « je veux payer en bitcoin ». Il va vous donner sa clé publique de réception. Vous allez sur Coinbase, vous allez marquer sur « send », « envoyer », et là, vous allez saisir cette clé publique, donc la clé de réception du vendeur, et le montant que vous voulez transférer. Donc, vous cliquez, vous mettez le montant, vous mettez la clé, et ça part automatiquement. Pareil, si demain, vous avez un portefeuille, vous voulez sortir votre bitcoin de Coinbase pour mettre dans votre portefeuille, c'est le même principe. Vous mettez la clé de votre portefeuille de réception, vous allez sur Coinbase, vous mettez « envoyer » avec la clé de votre portefeuille, et ça part là-bas. Inversement, quelqu'un qui veut vous envoyer, quelqu'un de gentil qui veut vous envoyer des bitcoins, vous lui donnez la clé, donc sur Coinbase, vous avez en bitcoin, vous avez une case qui s'appelle « recevoir », vous cliquez dessus, et ça vous donne la clé pour recevoir des bitcoins que vous allez donner à la personne qui va vous envoyer des bitcoins. C'est très très simple. La seule chose, alors, c'est également donc avec un QR code, donc vous pouvez scanner le QR code pour peu que vous fassiez avec des applications de smartphone, ce qui est encore plus facile. Par contre, petite précision, lorsque vous utilisez en fait ces clés, vous devez les renseigner, bien évidemment, vous ne les recopiez pas à la main, enfin, quand je dis à la main. Vous utilisez le copier-coller, parce qu'en fait, ces clés sont très longues, c'est des lettres et des chiffres, c'est des majuscules et des minuscules, et vous pouvez très bien, l'erreur est humaine, comme on dit. Donc si vous rentrez une clé qui n'est pas la bonne, le bitcoin, enfin ce que vous envoyez, va partir quand même, et ça va arriver ailleurs. Sauf que vous ne savez pas, ça arrive chez qui, et donc vous ne pouvez pas récupérer. Vous ne pouvez pas envoyer un mail à ceux qui va recevoir en disant « désolé, je t'ai envoyé par erreur, donc renvoie-moi mes bitcoins », ben non, vous ne savez pas à qui vous envoyez, la clé ne vous permet pas d'identifier en fait la personne. Donc, faites gaffe avec ça. Utilisez toujours des copier-coller, comme ça au moins il n'y a pas de problème. Ou donc sur smartphone, sinon c'est les QR codes, c'est encore plus simple. Voilà, donc ça c'est une précision, c'est important par rapport à ce système d'envoi. Donc c'est très simple, ça ne demande pas de code de validation. Donc ça peut être fait très rapidement par n'importe qui. Donc, enfin, quand je dis au niveau sécurité, ouais, enfin ça peut être fait assez rapidement. Donc si vous laissez, par exemple, vous avez Coinbase qui est ouvert sur votre bureau, vous vous absentez, quelqu'un va sur votre ordinateur, il fait send, il met sa clé à lui, envoyez. Vous voyez que c'est parti, vous ne savez pas qui a fait quoi, vous ne savez pas chez qui, parce que vous avez une clé, mais vous ne savez pas à qui elle appartient. Et on ne sait pas à qui elle appartient, on ne peut pas le savoir. C'est un des principes du Bitcoin avec la blockchain, c'est qu'on ne sait pas qui. On sait où, on connaît quelle clé, c'est sur quelle clé est arrivée, mais on ne sait pas à qui appartient ces clés. Voilà. Donc juste pour info, vous avez également, quand vous faites des envois ou des réceptions, enfin des envois, donc qu'une réception, c'est qu'il y a un envoi de l'autre côté, vous avez quelques Satoshi qui sont prélevés également. Alors ça permet de rémunérer en fait les mineurs qui font tourner la blockchain. Vous savez, ces premiers mineurs qui vérifient en fait l'enregistrement, qui font en sorte que tout soit OK. Donc en fait, ils touchent, quand on mine, c'est comme ça qu'on crée des bitcoins, qu'on récupère des bitcoins. Donc il y a quelques, mais c'est vraiment un pouillam, hein, Satoshi qui partent là-dessus. Donc soyez pas étonnés. Dernière chose aussi, c'est lorsque vous envoyez des bitcoins, le transfert n'est pas instantané. C'est-à-dire que c'est débité instantanément de votre compte, il n'y a pas de souci. Par contre, de l'autre côté, ça n'arrive pas tout de suite. Il faut qu'en fait que la transaction soit écrite et vérifiée dans la blockchain par ces fameux mineurs ou par ces fameux, c'est ceux qui vérifient. Donc vous dites, ok, c'est parti, ça n'arrive pas, mais c'est vérifié. Mais comment je sais? En fait, vous pouvez vérifier où ça en est, parce qu'en fait, la clé utilisée que vous utilisez pour envoyer vos bitcoins, vous êtes dans un explorateur de chaîne. Donc je vous en ai mis un en lien, ça s'appelle blockchain.info. Vous copiez-collez en fait votre clé et vous voyez où ça en est. Et vous voyez en vérification, il y a une première vérification, une deuxième vérification, une troisième. Alors je crois que au bout de je ne sais plus combien de vérifications, c'est considéré comme validé. Et à ce moment-là, ça apparaîtra sur le compte ou sur le portefeuille sur lequel vous l'avez envoyé. Donc ne soyez pas étonné que ce ne soit pas automatique. Sinon, quoi d'autre? C'est tout. C'est tout par rapport à ce, comment on va acheter avec des bitcoins. C'est assez simple, hein. C'est très très simple. Une fois qu'on a compris cette histoire de clé, c'est vraiment très simple. Donc voilà, vous avez vos Coinbase, vous avez donc créé votre compte, vous avez acheté des bitcoins, vous pouvez l'utiliser pour les vendre. Ben, maintenant, vous n'avez plus qu'à attendre que le cours monte et puis les revendre après contre des euros, si vous le voulez. Alors, juste une chose, comme je vous expliquais, les achats de Bitcoin avec Coinbase, donc vous prend 3,8% de frais. La vente, je ne sais pas, je n'en ai pas encore vendu. Pour l'instant, je les garde. Donc, je ne sais pas si c'est le cas également. Mais donc, si vous voulez jouer au trader, c'est-à-dire j'achète, je vends par rapport au cours de variation, passez pas par Coinbase. Clairement, passez plutôt par des plateformes spécialisées de trading. Alors, j'en connais pas pour l'instant, parce que je m'intéresse pas trop à ça. C'est pas mon but, c'est pas la vision que j'en ai, c'est pas la stratégie en fait que je vais utiliser par rapport à ces crypto-monnaies. Là aussi, je vous en reparlerai dans un épisode. Donc, par contre, si vous voulez faire du trading, passez par des plateformes spécialisées qui vous fourniront des analyses graphiques, qui auront des gestions d'ordre beaucoup plus affinées, avec des conditions, et puis surtout avec des frais beaucoup plus bas en termes de pourcentage. Voilà, ça c'est mon conseil si vous voulez faire ça. Bon voilà, vous savez un petit peu, je pense que j'ai fait un peu tout le tour sur le Bitcoin. Je vais terminer par 2-3 petites actus concernant le Bitcoin justement. Alors la première actu qui date du 13 octobre, c'est que le ministère en France, le ministère de l'économie et des finances, qui vient de répertorier le Bitcoin dans la liste des moyens de paiement alternatifs. Donc je vous cite, j'ouvre les guillemets, « Le Bitcoin est la première devise monétaire électronique décentralisée. Il s'agit de jetons électroniques. Les bitcoins se transmettent d'une personne à l'autre à travers le réseau sans passer par les banques. Il existe plusieurs bourses de change où sont achetés les bitcoins contre des dollars, euros ou autres devises. Le système fonctionne en open source, tout le monde peut consulter son code. Ce mode de paiement alternatif doit être traité aussi prudemment que les transferts d'argent classiques. La Banque de France et le réseau Bitcoin ont donné à cet égard un certain nombre de recommandations. » Voilà, donc ça date du 13 octobre ou du 10 octobre, c'est sur economiegouv.fr. Donc, quelque part, le Bitcoin est reconnu comme un moyen de paiement. Voilà, donc vous pouvez déjà l'utiliser. Alors, enfin, après, je vous rappelle qu'en France, les commerces ne sont pas tenus d'accepter tous les moyens de paiement, donc n'allez pas au McDo du coin en disant « si, c'est écrit, vous devez prendre mes Bitcoins ». Non, pas du tout. Mais plus sérieusement, donc, au moins, ce n'est pas quelque chose qui reste uniquement pour les... qui reste uniquement, on va dire, caché. Donc, même les gouvernements, ça intéresse un petit peu. Et puis, une autre actu, pour illustrer un peu ce développement du Bitcoin dans nos sociétés, c'est les autorités suédoises qui acceptent désormais le Bitcoin pour des règlements de dette. Donc en gros, si les Suédois doivent de l'argent, ont des dettes vis-à-vis de l'État, en fait, la dette peut être payée en Bitcoin par le citoyen auprès de l'État. Par contre, cette crypto-monnaie, c'est là où c'est marrant, c'est que la crypto-monnaie en fait reçue sera vendue aux enchères et ne sera pas, conservée ou revendue sur un site classique. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il n'y a pas de structure aujourd'hui officielle pour l'État suédois capable d'accepter le Bitcoin en épargne ou avec un module de... Enfin, l'État n'a pas vocation à faire du trading, à faire de la plus-value. Donc en fait, ils auront des Bitcoins. Et puis ces bitcoins, ils vont les revendre aux enchères aux Suédois. Donc là, je pense qu'il y aura des coins pour les intéresser, pour les Suédois surtout, parce qu'il faut être Suédois déjà. Ça peut être des trucs marrants à faire en termes de plus-value, de bon plan. Mais voilà, donc le bitcoin a été intégré, enfin a été accepté, donc est désormais accepté en Suède. Bon voilà, c'est deux, trois petites infos. Je ne sais pas si je vais faire des infos à chaque fois dans chaque podcast, parce qu'il faut quand même trouver, je trouve des choses intéressantes, pas trop techniques, et qui sont un peu en rapport avec l'article, du moins que le sujet, le dossier de l'épisode. Si vous voulez, si ça vous intéresse un petit peu, je vous mets en lien 3 sites d'actu français, qui sont journalducoin.com. Alors du coin, pas le coin le canard, hein, du coin. Après, vous avez coin24.fr et bitcoin.fr. Donc ils sont dans les liens également. Vous pouvez regarder ça tranquillement. C'est assez, on va dire, explicite. Il y a quelques termes au début, on ne sait pas de quoi ça parle, mais rapidement, on commence à comprendre un petit peu le schéma. Voilà, ce premier numéro de Crypto Cashcast se termine. J'espère que les explications données ont été claires et compréhensibles. Vous pouvez poser toutes vos questions et apporter des correctifs éventuels directement sur le blog cotigeek.fr, rubrique Crypto Cashcast. Je vous retrouve très prochainement pour un prochain numéro de Crypto Cashcast qui sera consacré justement aux wallets, au fameux portefeuille. Merci de votre écoute et à très bientôt. Salut!